Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique de Hugues Granson, député La République En Marche de Paris et vice-président de l'Assemblée Nationale et auteur du livre Le Refus de la Parenthèse.
Bonjour Hugues Granson.
Bonjour.
Mini remaniement du dimanche soir, donc pour remplacer les partants de la semaine dernière. Alors, deux anciens conseillers, hein, des proches du président, Sibeth Ndiaye comme porte-parole et Cédric O pour le numérique, et puis Amélie de Montchalin également comme secrétaire d'État aux Européennes. C'est le choix d'Emmanuel Macron de faire confiance aux plus fidèles ?
Écoutez, oui, certainement, mais je vais vous dire, il y a un exercice attendu dans ce cas de figure, c'est que les leaders de l'opposition viennent sur les plateaux pour critiquer les remaniements et que ceux de la majorité puissent y venir également pour encenser les mouvements et les nominations. Je ne rentrerai pas avec vous dans ce jeu tout à fait convenu. Le Premier ministre a choisi trois personnalités pour renforcer son équipe. Il les a proposées au président. C'est comme ça que les choses se
passent. Alors, c'est sûr que ça s'est passé de cette manière parce que, bon, on dit que
ce sont des proches. C'est en tout cas comme ça que la Constitution le prévoit. Et je leur souhaite en tout cas bonne chance et beaucoup de réussite parce que leur réussite et la réussite du gouvernement, c'est la réussite du pays.
Bon, Hugues Granson, donc c'est le choix du Premier ministre, n'est pas le choix d'Emmanuel Macron.
Le Premier ministre fait des propositions, le président nomme. Aujourd'hui, vous avez trois nouveaux membres
du gouvernement,
il y a une équipe qui est renouvelée et honnêtement je pense que il faut se mettre maintenant au travail et qu'ils seront dès ce matin au travail.
Bon, on a quand même l'impression que c'est le président qui a proposé au Premier ministre et le Premier ministre qui a entériné la décision du président.
Je pense que c'est un choix qui s'est fait en bonne intelligence entre les deux.
Bon, en tout cas c'est une jupéiste qui succède à une jupéiste aussi, au secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Vous ne sortirez jamais des vieilles grilles d'analyse sur Patrick Roger. On ne parle plus en jupéiste, en chiracien.
On
est aujourd'hui rassemblés.
Vous n'allez pas renier que vous êtes un chiracien.
Je le suis toujours, vous avez raison de le rappeler ce matin. On est tous mobilisés, pleinement mobilisés, dans un contexte très grave que vit le pays aujourd'hui. Un contexte de crise, un contexte où Paris est en état de tension semaine après semaine, et pas que Paris, où nous rentrons dans une campagne européenne qui doit être notre seule priorité et notre seul horizon. Je crois que maintenant que tout le monde est au travail et que c'est bien ainsi.
Oui, et puis on a l'impression quand même, Hugues Granson, que les temps sont durs aussi pour le chef de l'État, pour le gouvernement évidemment. On dit d'ailleurs que le chef de l'État est fatigué au bord du burn-out. Vous l'avez trouvé, vous, fatigué, le chef de l'État, ces derniers temps ?
Je ne le crois pas, on l'a même vu hier en compagnie de Nicolas Sarkozy. Je pense vraiment que il faut sortir de ces faux procès. Je lis ici qu'il est fatigué, là qu'il serait seul.
Ce qui peut se comprendre. Il y a un président de la République. 4 mois et demi de crise,
bien sûr. Ouais. Mais il y a un président de la République qui est pleinement mobilisé, qui est au travail. Vous avez un gouvernement, une majorité qui est riche, riche de sa diversité, avec des sensibilités. J'en incarne une qui est humaniste, sociale, écologiste. Et vous savez, si ces sensibilités ne pouvaient pas s'exprimer, si cette majorité ne pouvait pas faire vivre son message, le compte n'y serait pas aujourd'hui. Le compte y est, nous sommes au travail et nous cherchons à apporter des réponses aux Français. Nous allons rentrer dans la phase la plus opérationnelle du grand débat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en sort et quels sont les projets, quels sont les chantiers qu'on met sur la table. Ce sera aujourd'hui la priorité du gouvernement et de la majorité.
Hugues Granson, les trois arrivants sont trois trentenaires. Est-ce que finalement il n'aurait pas fallu un peu plus d'expérience au sein du gouvernement? On dit justement qu'il manque d'expérience. Et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les anciens chefs de l'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande, tous les deux à l'unisson.
Il y a une équipe qui est équilibrée, il y a une équipe qui a toute la confiance de la majorité, qui a toute la confiance de l'exécutif, et il ne vous aura pas échappé que je ne suis ni Premier ministre ni Président de la République, et qu'il ne m'appartient pas de constituer les équipes.
Oui. Sibeth Ndiaye, c'est assez étonnant, elle a dit que ça ne l'embêtait pas de mentir s'il le fallait pour protéger le Président de la République. C'est pas un peu embêtant ça quand même, évidemment, alors qu'elle va être porte-parole du gouvernement?
Sibeth Ndiaye a eu cette sortie et cette phrase alors qu'elle était conseillère du chef de l'État et donc elle était salariée de la présidence de la République. Elle devient aujourd'hui ministre de la République. C'est un engagement au service de la France qui nécessite évidemment vérité, transparence et je ne doute pas qu'elle n'aura pas la même dimension et la même approche dans sa responsabilité gouvernementale que ce qu'elle avait au sein d'un cabinet.
C'est une belle récompense pour une fidèle aussi, Sibeth
Ndiaye. Il n'y a pas de récompense quand on rentre au gouvernement, il y a un engagement.
Et
c'est votre lecture, moi je vous dis que quand on rentre au gouvernement, c'est un engagement au service du pays.
Oui, qu'est-ce que vous répondez justement aux deux anciens présidents qui donnent des leçons à Emmanuel Macron là ? Nicolas Sarkozy qui dit ça risque de mal finir, et François Hollande aussi, ce matin dans une interview au Parisien.
J'ai lu une interview du président Hollande.
Ouais.
Un aspect intéressant sur l'extrême droite dans son.
Il dit qu'elle arrivera au pouvoir si on continue comme ça en 2022.
Progresse, qu'elle soit un danger pour le pays, c'est un fait et il n'invente pas grand-chose. Comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite dans ce pays ? On lutte en ayant des résultats. Ouais. Dans la lutte contre le chômage, dans la justice sociale, la justice fiscale. Est-ce que François Hollande a eu suffisamment de résultats pour contenir l'extrême droite ? Je ne le crois pas. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que plutôt que de jouer aux oiseaux de mauvais augure, j'invite François Hollande à faire son examen de conscience par rapport à ce bilan-là. Vous savez, vous avez rappelé que j'ai travaillé auprès de Jacques Chirac. Jacques Chirac s'était fixé une règle en quittant la présidence de la République. C'est de ne jamais commenter l'action de son successeur. Et croyez-moi, il y avait matière. Je crois que c'est une position de sagesse que les Français...
Il devrait s'abstenir,
c'est une position
François Hollande,
de sagesse que les Français attendent de leurs anciens présidents de la République.
Oui, il devrait s'abstenir, quoi.
Oui.
Ce que vous dites. Alors, il y a le grand meeting de lancement de la campagne qui a eu lieu ce week-end. Emmanuel Macron voulait y participer, mais il n'était visiblement pas le bienvenu chez lui. C'est assez étonnant, ça, quand même, non ?
J'ai lu ça dans la presse, je n'en étais pas informé. J'étais évidemment samedi au meeting de lancement de campagne européennes, je vous l'ai dit, c'est notre seul horizon, notre seule priorité et notre motivation principale. C'était le lancement d'une campagne qui va être rude, qui va être difficile, ne nous berçons pas d'illusions. Le contexte européen est très compliqué. Aujourd'hui, vous avez le Brexit, premier élément de déconstruction de l'Union européenne. Vous avez la poussée des populismes et des nationalismes. Salvini en Italie, Orban en Hongrie. On a une liste qui aujourd'hui porte un projet positif et audacieux de transformation de l'Union européenne pour rapprocher l'Union de ses citoyens, pour transformer aussi l'Union, pour expliquer que l'Union européenne protège. Je rappelle que la semaine dernière, le Parlement européen a validé deux directives, l'une sur les droits d'auteur, l'autre sur l'interdiction des plastiques à usage unique. L'Europe protège, mais l'Europe doit aussi être transformée.
Elle n'est pas perçue comme ça par le grand public.
Bien sûr, mais justement,
pas seulement en France.
Puisque nous sommes résolument européens, apportons un projet de transformation de l'Europe. Vous savez, on a trop laissé à ceux qui voulaient déconstruire l'Europe la critique de l'Union européenne. Critiquons-la parce que nous sommes européens, il n'y aura pas de danger sur l'enjeu. Oui. Nous savons qu'il faut la rapprocher, nous savons qu'il faut en faire un élément plus dynamique, plus efficace pour trouver de l'unanimité plus rapidement ou plus facilement et des décisions plus faciles sur les grands sujets de migration, d'écologie, d'harmonisation fiscale ou sociale.
D'accord.
C'est tous les enjeux de la campagne.
Vous allez directement sur la campagne des européennes, mais que pensez-vous aussi de la fin du grand débat ? On attend des propositions et elles ne viennent toujours pas. Elles seront annoncées, nous a dit Emmanuel Wargon, qui était notre invité jeudi, visiblement début avril, c'est-à-dire dans quelques jours. Là,
le grand débat, c'est une expérience inédite et réussie de démocratie participative.
Ça, c'est vous qui dites.
Les citoyens se sont mobilisés pour y participer. Maintenant, il faut rentrer dans la phase la plus compliquée, mais qui est la plus intéressante. Ce sont les réponses et les chantiers de transformation que nous devons poser sur la table dans les quatre domaines.
Mais quelle réponse vous attendez,
j'ai expliqué que je souhaitais que la majorité puisse engager des chantiers nouveaux dans les quatre domaines. L'écologie, la fiscalité, le renouveau de la démocratie et l'organisation de l'État. Nous devons sortir renforcés de ce qui a été une épreuve pour le pays. Je crois profondément qu'il va falloir des décisions fortes, des décisions courageuses. Les Français nous attendent, nous leur avons donné rendez-vous à l'occasion du grand débat. Ils ont saisi la main tendue. À nous maintenant de pouvoir leur apporter des réponses audacieuses.
Oui. Hugues Granson, je crois que vous êtes intéressé par la mairie de Paris. Alors, dans votre camp, il y a déjà deux personnes qui, cette fois-ci, se sont lancées, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, puisqu'ils ont quitté le gouvernement, démissionné ou pas, de leur propre volonté. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu aussi lâcher le navire alors que ça tangue en ce moment pour des ambitions personnelles de la part des deux ?
Il y a eu, à l'évidence, ces dernières semaines, une accélération du calendrier. Je l'ai dit, je la regrette. Je regrette parce que je crois que la priorité politique, c'est justement la sortie du grand débat et ce sont les européennes. C'est ce qui doit nous motiver, c'est ce qui doit nous guider. Vous savez, dans les Aujourd'hui, les Parisiens qui nous écoutent, je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui se frotte les mains en m'écoutant ce matin, en se disant « Mon Dieu, la campagne municipale est lancée, c'est formidable » et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de désignation des candidats d'un parti. Je crois vraiment qu'on est très éloigné de ce que vit le pays. Le pays, je l'ai dit, vit un moment difficile, vit un moment
compliqué. C'est une erreur,
compliqué.
Alors, de stratégie.
Mais chacun a son calendrier, chacun a sa stratégie, ce ne sont pas les miens. Moi, j'ai dit que je me déterminerai au lendemain des élections européennes parce que je crois qu'il faut faire les choses dans l'ordre et qu'il va falloir chercher à rassembler plutôt qu'à confronter les égos.
Oui, mais là, est-ce que vous n'allez pas partir trop tard alors
Mais ce n'est pas le sujet. Je vous dis que je veux faire les choses dans l'ordre et que lorsque je m'adresse à mes concitoyens et à mes électeurs sur le terrain que je ne quitte pas, j'étais encore hier sur le 15e, dans le 15e arrondissement pour faire la campagne des européennes, personne ne me parle de la désignation
Donc,
par en marge d'un candidat.
Vous commencez quand même, Hugues-Granson, député, mais vous commencez déjà votre campagne aussi un peu comme Griveaux et Majoubi.
Non, je dis juste que ce n'est pas le moment qu'il faut faire les choses dans l'ordre qu'aujourd'hui cela n'intéresse personne et que faire de la politique autrement, c'est précisément de pouvoir se consacrer à sa tâche, c'est précisément de pouvoir rassembler et réfléchir aux conditions d'un rassemblement. Vous savez, ce sur quoi portera l'élection l'année prochaine, ce sera sur notre capacité à apporter des réponses aux Parisiens dans deux domaines. La qualité de vie, la propreté, la lutte
et
contre la pollution, la sécurité et le coût de la vie qui est devenu prohibitif dans cette ville.
Plus de 10 000 euros en moyenne le mètre carré.
En effet.
60% en l'espace de moins de 10 ans.
C'est un des enjeux considérables.
Annie Delgou est responsable de ça.
La municipalité doit pouvoir apporter des réponses aux Parisiens pour leur donner les moyens de bien vivre dans la capitale. C'est ça les enjeux. C'est pas la désignation par un parti à plus d'un an d'une élection et alors même qu'on lance la campagne des européennes de telle ou telle tête de liste.
Bon, en tout cas, on a l'impression que vous n'êtes pas très copain avec Benjamin Griveaux et
Mounir
Majoubi.
Je suis copain avec tout le monde, mais je suis aujourd'hui pleinement concentré et pleinement mobilisé sur ce qui me paraissent être les priorités du pays. Sortir du grand débat. Vous savez, ça fait 20 week-ends de suite que Paris est immobilisé par les forces de l'ordre. Et je crois que les Parisiens sont plus en attente de leurs responsables politiques par rapport à ce sujet-là et notre capacité à pacifier la ville. Que de savoir qui sera le candidat dans plusieurs mois.
Hugues-Granson, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus.
Justement, toutes ces candidatures, Villani, Griveaux, Majoubi, est-ce que ça ne va pas faire un peu le jeu de Annie Hidalgo ? Est-ce que ce n'est pas un peu
savez,
too much ?
Annie Hidalgo, aujourd'hui, elle est candidate, elle sera candidate, c'est peut-être la seule certitude qu'on a sur une offre politique qui est très diverse, à l'évidence, je le crois, trop diverse. Il y a un risque aujourd'hui, et on le voit dans tous les sondages qui n'ont aucune espèce d'incidence à un an d'une élection, mais le risque, c'est l'émiettement. Le risque, c'est que Paris devienne ingouvernable. Je crois qu'il faut justement essayer de réfléchir avec qui on peut gouverner la ville, et le faire en amont, avant le premier tour de l'élection municipale. Rien ne serait pire que de se retrouver au soir du premier tour en se disant « Oh là là, mon Dieu, avec qui on va devoir aller entre deux tours dans des discussions d'appareil et dans les arcanes du Conseil de Paris pour
faire
gouverner
la ville ?» Faire
des alliances,
alors ?
Ça veut dire réfléchir avec les uns et les autres, réfléchir et confronter nos propositions sur lesquelles En Marche travaille beaucoup, et je salue le travail qui a été fait. Mais il faut qu'on puisse regarder ce que propose Gaspard Ganzer, il faut qu'on puisse regarder ce que propose Pierre-Yves Bournazel. Mais parce que je crois aux dynamiques collectives, je crois qu'il faut construire une vision partagée pour cette ville. Anne Hidalgo sera candidate, il y aura un candidat de la droite, mais il y a un large arc progressiste que nous pouvons construire, que nous devons construire, parce que je suis absolument convaincu d'une chose, c'est que Paris ne se gagnera pas par un parti politique. Paris se gagnera en dehors des partis politiques par un grand rassemblement. Je crois en la promesse originelle d'En Marche, celle de faire de la politique différemment, celle de faire venir des citoyens engagés sur des listes ou aux responsabilités pour qu'ils puissent porter eux-mêmes des propositions.
En Marche n'est pas suffisant pour gagner.
Mais je crois que notre projet justement initial, c'est de dépasser les frontières partisanes. Je suis très attaché à ce projet initial et à cette promesse originelle. C'est ce qui m'a fait m'engager auprès d'Emmanuel Macron.
Et vous avez un invité surprise.
Hugues, c'est ton temps de la Noël, tout en camant de la mairie de Paris. Dis donc Hugues, en ce moment, il y a tellement de marcheurs qui se barrent du gouvernement pour les municipales de 2020 que bientôt ça va ressembler plus au semi-marathon de Paris qu'à une élection. Alors voici ma question, si tu réfléchis à te présenter justement à la mairie de Paris seulement après les européennes, est-ce que c'est parce que tu penses, comme disait Céline Dion, que les derniers seront les premiers ?
Monsieur le maire, je suis très heureux de vous saluer ce matin. Je pense que vous avez marqué cette ville autant que Jacques Chirac et que vos conseils sont toujours bons à prendre. Et donc, je réfléchirai à votre question et je vous apporterai le moment venu une réponse.
Il faut qu'on déjeune ensemble alors.
Avec plaisir. Il me semble que c'est déjà fait, mais vous n'en avez pas un souvenir à peine.
Il a perdu la mémoire.
Merci à vous, Hugues Granson. Et au passage, on est le 1er avril, pas un poisson d'avril, mais c'est la Saint-Hugues.
Ah, vous avez
je
un
crois
truc
aussi.
Dans le dos.
Merci infiniment d'y penser.
Aussi.
Ouais, il y a vous, absolument. Patrick Roger et ma maman ce matin.
Voilà,
vous
voyez. Voilà. Merde, j'ai raté ça.
Je salue d'ailleurs.
Mais ça se fête la veille, Patrick Roger,
ouais,
pas le jour
vrai,
même.
C'est vrai, bah oui,
en tout cas, bon. On retrouve Dany Moreau à 8h. Va rester avec nous, 7h57. Et puis, bonne fête, Hugues Granson. C'est le grand matin, jusqu'à 10h.